L'extase du papillon. Une émission présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous. La route inconnue a replié son long ruban le temps d'un été et ce sont des sentes plus étroites qui vont s'offrir à votre curiosité en juillet comme en août. Des chemins buissonniers appellent nos pas et notre cœur. Ils vont nous conduire au Japon sur les traces encore fraîches de 3 mètres du haïku Masaoka Shiki, Ozaku Osai et Taneda Santoka. Alors, ces trois noms vous sont sans doute moins familiers que celui de Basho, par exemple. Basho, le maître fondateur du haïku. Cependant, les trois personnages dont je vais vous conter l'histoire chaque semaine dans cette émission intitulée « L'extase du papillon » n'en sont pas moins captivants. Primo, ce sont de grands poètes. Deuxio, ils ont été tous les trois, chacun à sa manière, des réformateurs du haïku. Tertio, leur vie comme leur œuvre, témoigne des bouleversements d'une époque où le Japon s'est ouvert à la modernité occidentale, remettant parfois en cause les traditions multiséculaires d'un pays qui n'en est pas avare. Comment nos trois poètes ont-ils vécu cette rupture dans le continuum de l'histoire nippone? Eh bien, vous allez pouvoir le découvrir tout au long de cet été dans l'extase du papillon. Alors, pourquoi l'extase du papillon? Eh bien, parce que ce petit animal, fragile, évanescent, léger, gracieux, évoque mieux qu'aucun autre l'inoubliable légèreté du haïku, cette forme poétique si particulière qui a traversé les âges et les continents et continue de faire des conversions partout où il s'écrit. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Masaoka Shiki. Mais avant cela, je tiens à remercier ici les éditions Mundaren, spécialistes du haïku et de la poésie chinoise, dans les livres desquels j'ai beaucoup puisé pour réaliser les émissions que vous allez pouvoir suivre cet été. Masaoka Shiki naît le 14 octobre 1867 d'une famille de samouraïs de rang inférieur dans la ville de Matsuyama sur la côte nord-ouest de l'île de Shikoku. Cette année-là est la dernière de l'ère Tokugawa précédant la restauration Meiji qui va ouvrir le Japon à l'influence culturelle occidentale. Shiki n'a que 5 ans quand son père, alcoolique notoire, meurt, laissant la famille sans ressources financières si ce n'est l'aide occasionnelle apportée par le grand-père maternel. Sa mère Yae se met à enseigner la couture pour élever Shiki et sa jeune sœur Ritsu. C'est le grand-père maternel, Ohara Kanzan, samouraï et distingué lettré confucéen qui enseigne les classiques chinois au fils de samouraï, qui devient le tuteur de Shiki. Kanzan est un homme fier et intègre, respecté de tout le village, méprisant la richesse matérielle et doué d'un humour détaché qui lui permet d'endurer la pauvreté. Shiki lui voue une grande admiration. Kanzan, en confucéen intransigeant, est hostile à l'influence occidentale qui commence à se faire sentir tant dans la littérature et l'art que dans la politique et le domaine de la vie quotidienne. Farouchement opposé à l'étude des langues de l'Occident, il fait un jour copier à Shiki un poème qui se termine par cette admonestation « De toute ta vie, ne lis jamais cette écriture qui avance de côté comme un crabe à travers la page ». Quand, en 1871, le gouvernement, avec l'abolition des lois féodales, enjoint aux anciens samouraïs de couper leurs cheveux et d'abandonner leur épée, Kanzan, très attaché au signe extérieur de son identité de samouraï, non seulement refuse pour lui-même, mais interdit aussi que l'on coupe les cheveux de Shiki et de son cousin Ryu qui, lorsqu'il rentre à l'école publique élémentaire à l'âge de 6 ans, sont les deux seuls enfants à porter encore les cheveux. Le matin, Chiki se lève à 5 heures pour aller étudier avec Kanzan avant de se rendre à l'école. Il en gardera un goût prononcé pour l'écriture et la chose écrite. À 7 ans, Kanzan commence à lui enseigner l'écriture chinoise et l'étude des classiques chinois. Il a 8 ans quand Kanzan, âgé de 57 ans, meurt alors qu'il est en train de contempler les cerisiers en fleurs dans le jardin. Cette année-là, Chiki rentre à l'école de Matsuyama. Selon la volonté de son grand-père, il continue à étudier les classiques chinois avec Tsukiya Kyumei. Puis à 11 ans, il écrit son premier poème en style chinois dédié au coucou. Au seuil de l'adolescence, sous l'influence de ses professeurs qui lui font lire des nouvelles et des romans d'aventure, eh bien il commence à prendre quelques distances, sans le rejeter pour autant, envers le strict confucianisme que lui a instillé son grand-père. À 14 ans, avec 4 camarades d'école, Chiki fonde un groupe poétique, le Club des amateurs de poésie. Avec un lettré confucéen de l'école du philosophe chinois Chu Si, 12e siècle, qui accepte de les prendre sous sa coupe, ils étudient les écrits des dynasties Tang et Song et l'œuvre philosophique de Chu Si. Ils se réunissent dans une petite pièce qui vient d'être adjointe à la maison Masaoka et que Chiki a transformé en studio-bibliothèque. En 1882, le groupe commence à s'intéresser à la politique, notamment au mouvement démocratique des droits civiques, qui connaît alors un regain d'intérêt au Japon. Chiki et ses amis assistent aux réunions politiques de Matsuyama et créent dans leur école un club de débat politique où ils exposent leurs idées radicales. Ils sont encouragés en cela par le directeur de l'école, lui-même ardent avocat des droits civiques. Quelques années plus tard, Chiki consignera « Ce que je préférais alors, c'était écrire. Mais j'étais sous l'empire des études chinoises qui m'interdisaient d'envisager la poésie ou la peinture comme objet exclusif de ma vie. Pourtant, rien d'autre ne m'attirait. Détestant la médecine et méprisant la science, je projetais de me diriger vers le droit ou la politique. » Chiki, comme beaucoup de jeunes gens de son âge, pense trouver son salut à Tokyo, une grande ville en pleine effervescence culturelle sous le choc de l'ouverture à l'Occident, où de multiples courants politiques, littéraires et artistiques sont en train de naître. Aussi, le jour où son oncle maternel Kato Tsunetada, qui réside à Tokyo, apprend que l'ancien daimyo, c'est-à-dire le seigneur de Matsuyama, vient de créer des bourses d'études à Tokyo pour les enfants descendants de samouraïs, pensant que Chiki, bon élève, a de sérieuses chances d'en obtenir une, il écrit à son neveu, lui proposant de venir immédiatement à Tokyo. La lettre arrive le 8 juin 1883. Deux jours plus tard, accompagné au bateau en partance pour Tokyo par sa mère, sa sœur, des parents et des amis, Chiki, le cœur serré, quitte Matsuyama. Il a 16 ans. À Tokyo, eh bien, Chiki réside quelque temps dans la résidence de l'ancien daimyo d'Isamatsu, avec le titre de garçon de service. Alors il n'a que très peu de tâches à accomplir, il est avant tout considéré comme étudiant. Bénéficiant d'une bourse d'études, il entre à l'école secondaire Kyoritsu, il apprend l'anglais et prépare l'examen d'entrée à l'école préparatoire à l'université, affiliée à l'université impériale. Au bout de 2 ans, au lieu de 3 généralement, il est reçu. Il s'installe en tant que boursier dans la résidence universitaire de Hongo, gérée par une fondation dirigée par le clan de Matsuyama. C'est à cette époque que Chiki commence à se passionner pour le haïku, la poésie populaire de forme brève, portée à son apogée poétique 2 siècles auparavant par Basho. Il lit avec ferveur l'œuvre des maîtres de jadis et compose ses propres haïkus. Aussi, lorsqu'au cours de l'été 1886, il retourne à Matsuyama pour ses vacances, il parvient à se faire introduire auprès du maître de haïku, Ohara Kiju, alors âgé de 80 ans, et disciple du grand maître Baishitsu, né en 1769 et mort en 1852. Shiki se rend donc chez Kiju et découvre avec stupéfaction que la maison de celui-ci est recouverte des murs au plafond de feuilles de papier où sont inscrits des poèmes et des dessins. Shiki montre à Kiju quelques haïkus de sa composition. Emballé, ce dernier compose en l'honneur de son jeune invité un poème où il le compare à un jeune dragon bondissant sur le mont Fuji. Bien qu'il s'agisse là de leur unique rencontre, Shiki écrira plus tard que Kiju fut son seul professeur de haïku. De retour à Tokyo, il commence à s'intéresser à la philosophie, notamment à l'œuvre du philosophe taoïste de l'antiquité chinoise Chuang Tzu et à celle du philosophe anglais contemporain Herbert Spencer, tout en continuant à lire beaucoup de littérature contemporaine et de poésie. En 1889, il écrit un essai intitulé « Origine et développement de la poésie » où il met en valeur la puissance poétique du haïku. Cette année-là, il a maintenant 22 ans. Lors d'une excursion sous la pluie à Kamakura, pour la première fois, il se met à cracher du sang, signe avant-coureur de la tuberculose. C'est alors qu'il prend pour la première fois comme nom de plume Shiki, prononciation sino-japonaise du mot chinois signifiant « coucou », l'oiseau qui, selon la légende, crache du sang chaque fois qu'il chante. C'est en 1889 aussi que Shiki rencontre et se lie d'une profonde amitié avec Natsume Soseki, né la même année que lui, futur célèbre auteur de nouvelles. Leur échange littéraire débouche bientôt sur une intense connivence poétique. Shiki décide de se consacrer désormais à deux tâches. Lire tous les recueils de haïku publiés à ce jour en vue d'écrire une histoire du haïku par auteur, par saison et par thème et travailler à la composition de nouvelles, le genre littéraire le plus représentatif de la modernité du début de la restauration Meiji dans le sillage de Ryukei, Shoyo et Rohan, qu'il admire tout particulièrement pour la nouveauté du ton et du propos. En mars 1892, il rend visite à Rohan et lui présente une nouvelle de sa composition intitulée « La capitale sous la lune ». Mais Rohan ne lui prodigue aucune parole d'encouragement. Déçu, Shiki décide d'abandonner provisoirement la nouvelle pour se consacrer entièrement à la poésie, surtout au haïku, dont il a maintenant acquis une grande connaissance. Grand admirateur des journaux de voyage poétique de Basho, il entreprend deux pèlerinages poétiques jusqu'à Woizo et Hakone, dont résulteront deux journaux, Le manteau invisible et Le récit du pont suspendu, qui sont publiés dans le journal nippon de son ami Katsunan. De l'été à l'automne 1892, il effectue un périple dans le nord de Honshu sur les traces de Basho le long de l'étroit chemin vers Oku, titre du célèbre journal de voyage du vieux maître. À Nipponmatsu, hébergé au temple zen Manpuku-ji, Shiki compose « Ô vénérable Bouddha, tournant le dos, la lune fraîche ». Au parc Fukushima, Shiki écrit « Regardant en bas, sous la lune fraîche, 4000 maisons. » Puis aux sources chaudes d'Izuka, « Fraîcheur, la cascade gicle jusque sur la maison. » Du 26 juin au 2 octobre 1892, Son ami Katsunane publie dans son journal quotidien Nippon une série de 38 chroniques de Shiki intitulée « Propos sur le haïku du repère de la loutre ». Shiki a pris comme autre nom de plume « le maître du repère de la loutre » par allusion à son habitude d'entretenir dans sa chambre un bric-à-brac de livres et de feuilles manuscrites. Dans ses chroniques, il appelle de ses voeux une revitalisation du haïku dont l'énergie poétique s'est quelque peu tarie lors des dernières décennies. Selon lui, les raisons d'un tel affadissement tiennent dans l'incompétence et le passéisme des actuels maîtres de haïku, dans la vulgarisation du genre lors de la période Tokugawa entre 1603 et 1868, quand il devint un passe-temps de la classe marchande, et tertio dans l'incompatibilité entre l'idéal de base de la littérature et de l'art, cette indicible grâce, et la vulgarité de l'âge moderne. Écoutez plutôt ces propos de Shiki. Si l'on considère les innombrables innovations auxquelles cet âge fanatique a donné naissance, ou les prétendues commodités de la civilisation moderne, on constate qu'elles s'inscrivent pour la plupart dans le médiocre et le vulgaire et restent inutilisables pour le poète. Elles ne suscitent que des émotions destructrices de l'éthique et néfastes à l'harmonie sociale, ne laissant aucune place pour la moindre conception élégante ou la moindre pensée noble. De la même année, Shiki, âgé de 25 ans, rejoint formellement la rédaction de Nippon, moyennant un salaire mensuel de 15 yens, certes modeste, mais pour un travail lui laissant beaucoup de temps libre. Il continue sa chronique dans la rubrique Haïku de Nippon. Il gagne maintenant correctement sa vie aussi. Sa mère et sa sœur Ritsu viennent-elles le rejoindre à Tokyo au cours du printemps 1893. Seul dans le bureau éditorial, pluie du cinquième mois. Seul dans le bureau éditorial, pluie du cinquième mois. Durant toute l'année 1893, l'activité de Shiki en tant que poète et critique est intense. Il participe à de multiples réunions de haïku dans lesquelles il est de plus en plus lassé par le poids de la convention, de la vulgarité et de la médiocrité. Sa rubrique dans Nippon devient le creuset de la rénovation du haïku. Au milieu de l'été 1893, il entreprend un nouveau voyage à pied dans la région de Tohoku, le nord-est de Honshu, sur les traces de Basho, lors de son pèlerinage poétique relaté dans son fameux journal « L'étroit chemin vers Oku ». Son carnet de voyage est publié en feuilleton dans Nippon sous le titre « Voyage sans fin ». Voici deux exemples de haïku, extraits de « Voyage sans fin ». Le corps nu, pressé contre le mur. Quelle chaleur! Le corps nu, pressé contre le mur. Quelle chaleur! L'averse du soir. Les femmes de chambre s'empressent de fermer les stores. L'averse du soir. Les femmes de chambre s'empressent de fermer les stores. Shiki rassemble tous ses haïkus de l'année 1893 dans un recueil intitulé « Montagne froide, arbre nu », publié par Nippon. Au début de l'année 1894, il emménage dans le quartier Negishi, à côté de chez Katsunan, le directeur de Nippon. En février 1894, Katsunan décide de publier un nouveau journal, prolongement culturel de Nippon, qui sera appelé Shō-Nippon, le petit Nippon, et dont il nomme Shiki rédacteur en chef. Par le biais du journal, Shiki fait la connaissance du peintre Nakamura Fusetsu, d'un an son aîné, alors étudiant en beaux-arts très démuni. Vivement impressionné par le talent de Fusetsu, Shiki lui confie les illustrations de sa rubrique dans Nippon. Travaillant ensemble dans les bureaux du journal, ils entament un dialogue peinture-poésie qui va s'avérer très fructueux pour les deux. Sous l'influence de Fusetsu, Shiki en vient à apprécier le réalisme de la peinture occidentale et par contre-coup à clarifier ses idées sur le haïku en empruntant certains concepts du réalisme pictural, croquis d'après nature, en japonais shasei, description de ce qui est, c'est-à-dire ari no mama ni utsusu. Shiki, qui réside dans le quartier Negishi, se promène chaque jour dans les environs, composant des haïkus dans cet état d'esprit de décrire ce qui est dans l'épaisseur de l'instant présent. Incidemment, il nous donne à entrevoir ce à quoi pourrait ressembler un grand journalisme poétique. Lors du grand incendie de Takaoka, il compose ce haïku. 20 000 personnes sans maison, la lune d'été. 20 000 personnes sans maison, la lune d'été. Mais à cause de difficultés financières et d'ennuis politiques dus à la ligne rédactionnelle anti-gouvernementale du groupe Nippon, le petit Nippon cesse de paraître. Shiki retourne dans les rédactions de Nippon. Les deux dernières semaines de juillet, il fait publier une série d'articles intitulés « Propos oisifs sur la littérature ». Le 25 juillet 1894 éclate la guerre sino-japonaise. À sa demande, et malgré les mises en garde de son entourage en raison de sa santé fragile, Shiki est envoyé en Chine comme correspondant du journal Nippon. Mais le traité de paix est signé le 17 avril de l'année suivante, avant même que Shiki n'atteigne le rivage de la Chine. Il accoste néanmoins à Deren, en Mandchourie, où il retrouve son ami le peintre Fusetsu, avec qui il pérégrine quelque temps dans la région de Jinchou. Hébergé dans un campement sale et surpeuplé, il tombe sérieusement malade. Il tousse beaucoup et crache à nouveau du sang. Dans le bateau qui le ramène au Japon à la mi-mai, les conditions de traversée sont encore plus éprouvantes. Aussi, quand il accoste à Kobe, il est trop faible pour marcher et l'on doit le transporter à l'hôpital. Les médecins pensent qu'il va succomber à la maladie, mais miraculeusement, il survit. Il sort de l'hôpital le 23 juillet et va se reposer dans le sanatorium de Suma, au bord de la mer. Il se promène et se remet à écrire pour sa chronique dans Nippon. À l'aube, une voile blanche traverse de l'autre côté de ma moustiquaire. À l'aube, une voile blanche traverse de l'autre côté de ma moustiquaire. Dessous dans le tronc, en échange de la véranda du temple, fraîcheur. Dessous dans le tronc, en échange de la véranda du temple, fraîcheur. Au mois d'août 1895, rétabli, Shiki retourne à Matsuyama, sa ville natale, où, encore convalescent, il séjourne chez son ami Natsume Soseki, du même âge que lui, futur grand romancier et nouvelliste, alors encore jeune instituteur inconnu. Un groupe de jeunes poètes de Matsuyama adopte Shiki comme mentor et se réunit chaque jour autour de lui dans la maison de Soseki qui finit par se joindre au groupe. Shiki les initie au nouveau style de haïku qu'il préconise, composition d'après l'observation et ancrage du poème dans l'expérience. Il condense ses idées dans un texte intitulé « Grandes lignes du haïku » que Nippon publie en chronique à partir d'octobre. Il commence aussi la publication dans Nippon de ses notes de convalescence. Au cours du mois d'octobre 1895, il décide de retourner à Tokyo. Quittant Soseki, il compose ce haïku « Je pars, tu restes ». Deux automnes. Je pars, tu restes. Deux automnes. En chemin à Suma, pour la première fois, il ressent des douleurs pelviennes qui lui rendent la marche très pénible. Il est à nouveau hospitalisé. Les infirmières dorment toutes. Quel froid! Les infirmières dorment toutes. Quel froid! Dans une maison de repos de Suma, Shiki compose « Personne sur le fauteuil à l'ombre des arbres, les aiguilles de pin tombent. Personne sur le fauteuil à l'ombre des arbres, les aiguilles de pin tombent. » La garde malade, somnolente, se réveille et frappe la mouche. La garde malade, somnolente, se réveille et frappe la mouche. À peu près rétabli, Shiki reprend sa route vers Tokyo. À Nara, s'arrêtant pour se reposer dans une maison de thé, non loin du temple Horyuji, célèbre pour ses vergers de kaki, il compose ces deux haïkus. Croquant un kaki, sonne la cloche du temple Horyuji. Croquant un kaki, sonne la cloche du temple Horyuji. La cloche du soir et le bruit des kaki mûrs du temple qui tombent. La cloche du soir et le bruit des kaki mûrs du temple qui tombent. De retour à Tokyo à la fin de 1895, Shiki, maintenant âgé de 28 ans, reprend ses activités poétiques au journal Nippon. L'éditeur de Nippon, Kuka Katsunan, avec qui il est très lié, est son voisin dans le quartier Negishi, d'où l'on aperçoit les montagnes d'Ueno. Un courant littéraire reconnu comme tel prend forme autour de lui. Ce courant est d'ailleurs appelé l'école Negishi. C'est sur cette bonne nouvelle que je termine cette première partie de l'émission consacrée à Shiki. Nous reprendrons le cours de son histoire dans la seconde émission, la semaine prochaine, pour la deuxième édition de L'Extase du Papillon. Un grand merci à nouveau aux éditions Mundaren, dans laquelle j'ai beaucoup puisé. Les éditions Mundaren qui ont fait paraître un très beau recueil des haïkus de Shiki intitulé « Le mangeur de kaki qui aime les haïkus ». À la semaine prochaine.